graphiques très, très différentes et en même temps des films qui se font écho et qui se complètent aussi bien historiquement que formellement et vivent la salle. Hein, et c'est vraiment des films qui requièrent absolument le dispositif d'aller en salle, parce que c'est des films qui seraient très difficiles à voir, à bien voir, à bien percevoir sur un écran d'ordinateur ou à la maison. Hein. Parce que l'expérience de la persistance rétinienne que vous avez eue avec Norman McLaren, hein, j'ai entendu, ah, ça fait mal aux yeux, mais c'est justement une expérience proprement cinématographique. Le film de Norman McLaren, c'est donc de la pellicule grattée, c'est de la pellicule vierge que Norman McLaren gratte, c'est de la pellicule couleur hein, et qui permet donc ces jeux colorés et qui vient questionner évidemment le support, le photogramme, l'espace cinématographique, le déplacement des formes sur la pellicule photosensible. Donc ça, c'est vrai que ça permet de questionner et puis de rappeler aux élèves aussi que le cinéma a une histoire, a un support, et que ce support, ça a d'abord été de la pellicule, et que le cinéma aussi, c'est 24 images secondes, c'est toute une histoire de persistance rétinienne. Je ne sais pas s'il y a des preuves de science parmi vous, mais voilà, c'est des films qui sont très, très utiles, à mon avis, dans un cours d'optique et de science, parce que justement, ça vient questionner le photosensible, la chimie. Et en plus, aussi, évidemment, une réflexion philosophique et existentielle. Alors, le film de Ritilova, c'est encore tout autre chose, mais c'est aussi un film dont on peut dire qu'il questionne son support, hein, que son esthétique, en tout cas, prime sur sa narration, ça, c'est certain. Alors, pour se repérer dans l'histoire des formes cinématographiques, on pourrait dire Norman McLaren comme Vera Ritilova, c'est du cinéma expérimental. Mais en fait, on ne peut pas vraiment le dire. Parce que le cinéma expérimental, enfin ce qu'on appelle le cinéma expérimental, ça rentre dans un champ économique en fait. C'est aussi l'économie du cinéma, l'économie des films, qui en détermine, disons, l'appartenance. Or, Norman McLaren, vous l'avez vu, c'est l'Office national du film du Canada. Donc, c'est une entreprise étatique qui ouvre un laboratoire d'expérimentation. Et Ritilova, c'est du cinéma tchécoslovaque en 1965, donc en pleine guerre froide et de l'autre côté du rideau de fer. Donc, c'est un cinéma d'État aussi, mais qui, à cette époque bénie si vous avez aimé le film ou pas, mais en tout cas qui a permis dans ces années-là toute une école expérimentale et qui appartient un autre élément où les deux films résonnent, où c'est intéressant de les présenter. Donc le film de Norman McLaren appartient au cinéma d'animation. Hein. Norman McLaren, c'est vraiment un des grands maîtres du cinéma d'animation donc canadien. Et il se trouve que l'école tchécoslovaque du cinéma d'animation est une des plus anciennes. Elle commence après la guerre et elle enverra des films partout dans le monde, d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui. Hein. Donc ça permet aussi de présenter ces deux films, de faire écho à un cinéma, un champ cinématographique auquel n'appartient pas Les Petites Marguerites, qui est le cinéma d'animation, mais auquel il fait référence. Alors pourquoi il fait référence au cinéma d'animation ? D'abord dans la manière dont il envisage ses personnages. Ces deux jeunes filles sont vraiment mises en scène comme des marionnettes. Dès le début du film, elles ont ces mouvements saccadés, cette diction aussi. Alors, des marionnettes qui sont... ce qui est propre au cinéma tchèque de Trinka, c'est que les marionnettes ne parlent pas, elles ne sont pas animées. Hein, c'est tout un travail sur, le son et la mise en scène qui permet de leur donner vie. Bon, là, c'est, enfin, de toute façon, on ne va pas les comparer à ça, mais en tout cas, ces petites Marguerite, ces deux jeunes filles sont vraiment traitées comme un peu comme des automates. Voilà. Après, le film appartient à aussi un mouvement, disons, historique qui est et qui appartient aux nouvelles vagues. Là aussi, présenter les petites Marguerites, c'est une autre façon de, enfin, c'est aborder la question des nouvelles de la nouvelle vague autrement que par Godard Truffaut, hein, parce que on a tendance évidemment en France à penser que la nouvelle vague ça nous appartient et que c'est Truffaut et les 400 coups en 1959, puis Godard avec À bout de souffle en 1960. En fait, la nouvelle vague c'est un mouvement mondial. Partout dans le monde, il y a des cinéastes qui viennent questionner les formes cinématographiques. Alors c'est vrai que le mouvement, on peut considérer qu'il commence en France, mais voilà, on voit qu'en Tchécoslovaquie, dès 1900, alors là il y a écrit 65, mais 66, mais c'est 65-66, un des films manifestes en tout cas de la nouvelle vague tchèque, c'est Les petites perles au fond de l'eau, qui est un film collectif. Ça, c'est très intéressant aussi. Un film à sketch où plusieurs cinéastes s'emparent en fait d'une nouvelle. C'est une adaptation de Beau. Alors, le tchèque, j'espère qu'il n'y a pas de tchèque dans la salle parce que sûrement j'écorche les noms. C'est une langue assez complexe que j'avoue ne pas maîtriser, mais c'est Bohumil Hrbal, qui est un écrivain tchèque très, très important, et qui est donc un groupe de jeunes cinéastes, tous diplômés de la FAMU, donc qui est l'école de cinéma à Prague, qui est encore aujourd'hui considérée comme une des grandes écoles de cinéma européennes. Ces cinéastes vont donc s'emparer d'un recueil de nouvelles et chacun va réaliser un sketch. Ce procédé peut tout à fait faire écho à un film de la Nouvelle Vague qui s'appelle Paris vu par, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui est aussi un film à sketch où on retrouve Godard, Truffaut, Chabrol, Jean Rouch, et Paulet aussi, et qui est aussi un film très intéressant pour introduire historiquement tout le panel des cinéastes de la Nouvelle Vague, mais aussi parce qu'il y a dans ces années 60, dans toutes ces cinématographies novatrices et bouillonnantes, c'est vrai aussi en Italie, où il y a plusieurs films à sketch qui vont donner des films mémorables, par exemple La Ricotta de Pier Paolo Pasolini fait partie d'un film à sketch, et d'ailleurs on pourra reparler de l'influence réciproque de Pasolini peut-être sur Les petites Marguerites. Mais en tout cas, voilà, un film qui précède Les petites Marguerites, c'est ce film collectif où on retrouve Jiří Menzel et Jan Němec, qui sont donc les réalisateurs de Train étroitement surveillé et des Diamants de la nuit, deux films tchèques très très importants, qui d'ailleurs ont été photographiés par Jaroslav Kučera, qui est le chef opérateur des Petites Marguerites, et en passant le mari de Vera Chytilová. Voilà, qui participe également à ce film-là. Vera Chytilová, alors, est-ce que vous voyez quelque chose à ce... ce texte. Je voulais savoir, vous avez reçu un texte que j'ai communiqué ou pas du tout ou, oui, d'accord. Bon, bah donc c'est à peu près les mêmes informations qui sont inscrites ici. Donc, Ritilova, elle commence la FAMU alors qu'elle est déjà assez âgée. Elle a une expérience donc de script, de dessinatrice. Elle a pris des cours d'architecture. Elle a été mannequin. Elle a très bien connu le monde de la mode, ce qui se ressent d'ailleurs dans le film. Et elle a collaboratrice Esther Krombachova, qui est sa décoratrice et avec qui elle réalisera le scénario de Krombachova en 1969 qui s'appelle Les fruits du paradis et qui est le dernier film qu'elles feront ensemble qui va sortir juste après le printemps de Prague, donc juste après cette répression terrible qui va les vouer au silence pendant une bonne partie des années 70. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de comprendre... Alors, on peut resituer les petites marguerites par rapport à ce contexte européen des nouvelles vagues et le faire résonner avec à la fois le cinéma d'animation tchèque, mais aussi, évidemment, le cinéma burlesque des années 20. Hein, il y a tout le temps des citations, une accélération, une image un peu accélérée comme ça dans le film qui peut faire référence au burlesque américain, à Buster Keaton ou à Charlie Chaplin. Mais aussi, évidemment, le film auquel on peut penser immédiatement en voyant Les Petites Marguerites, c'est Zazie dans le métro de Louis Malle qui date de 1960, qui est une adaptation de Raymond Queneau et qui emploie le même type de procédé disruptif de la narration, disons. Parce que j'ai souvent entendu dire que Les Petites Marguerites étaient un film sans narration. Ça, je trouve ça faux. En fait, le film part quand même d'une proposition très claire qui est posée dès le début. Puisque ce monde est dépravé, nous serons dépravés. Et donc, ces jeunes filles posent un principe qu'elles vont suivre, poursuivre pendant tout le film. Et le film suit vraiment ce chemin de dépravation qui mène à l'autodestruction et à la mort. Et le film se termine bien sur la catastrophe. Il se termine d'ailleurs sur ce sur quoi il s'était ouvert. Donc en plus, c'est un scénario en boucle, puisqu'on a ces images d'archives d'explosions nucléaires qui passent au tout début et à la fin du film. J'espère qu'on va avoir le temps, hein, bien sûr, d'analyser deux séquences, mais j'ai pas... voilà, pour revenir donc sur le contexte, donc l'entreprise de autodépravation et destruction est posée dès le début du film et pose un cadre narratif finalement à la temporalité du film. Un peu d'ailleurs comme Zazie dans le métro qui arrive à Paris, il n'y a pas de métro et puis à la fin elle repart. Il y a aussi comme ça cette boucle. Bon, après la comparaison s'arrête là parce que c'est vrai que il y a une créativité dans Les Petites Marguerites, un sens aussi, si c'est pas du cinéma expérimental puisque c'est un cinéma de la nouvelle vague, mais c'est un cinéma qui expérimente en tout cas, c'est-à-dire le chef opérateur, il a mené des expériences qui n'avaient jamais été faites avant lui sur la pellicule, notamment l'irisation de l'image. Vous voyez, quand la première séquence, c'est quand elle raccompagne le premier client, je ne sais pas comment l'appeler, là, le vieux monsieur au train, et puis où on voit ses rails, et il y a comme ça un passage du noir et blanc à la couleur irisée, qui sont des expérimentations de développement de la pellicule, que seul Kutchera a faite à l'époque. Donc il y a vraiment une recherche sur le support qui n'est propre qu'à ce film-là. Et dans ce sens-là, on peut dire effectivement que le film expérimente. Voilà. Oui, alors pour revenir sur le contexte, donc en 1965, on est à un moment où, en plein dégel après la mort de Staline en 1953, et donc, je vous avais inscrit dans le... C'est vrai que c'est compliqué de présenter ce film à des élèves qui ne connaissent pas forcément... Alors, si on veut aborder le Bloc de l'Est, je ne sais pas, ça doit être très intéressant de présenter ce film-là. Mais si on est tout à fait à un autre endroit, c'est plus complexe, effectivement, de rentrer dans les détails de ce qui se passe en Tchécoslovaquie en 1965. On peut juste dire qu'on est dans la période du dégel. Et effectivement, ne pas faire de confusion, parce que il y a sur l'affiche, par exemple, des petites marguerites, il est écrit le film mythique du printemps de Prague. Alors ça, c'est un peu trompeur, par exemple, parce que le printemps de Prague, c'est 68, et les petites marguerites, c'est 66. Alors que le film préfigure, ou en tout cas porte les valeurs de révolte, de secouer un monde ancien, un monde figé, un monde bureaucratique dirigé par une nomenclatura qui se baffre, hein, parce que c'est quand même ça que les petites marguerites dénoncent à une époque en plus où effectivement le rideau de fer ne permet pas de communication entre Est et Ouest. C'est tout à fait juste, mais on n'est pas encore au printemps de Prague. Le printemps de Prague, c'est 2 ans plus tard, et c'est un moment où effectivement Rytilova, Kundera, après ça permet aussi d'ouvrir Miloš Forman. Évidemment, les élèves vont peut-être, ou peut-être vous connaissez mieux Miloš Forman et Milan Kundera parce qu'ils ont émigré en Occident et qu'ils ont fait une œuvre aussi en France ou aux États-Unis, qu'on les connaît, alors qu'effectivement Vera Rytilova est moins connue ou reconnue ici parce qu'elle n'a pas émigré. Elle a choisi de rester en Tchécoslovaquie, bien qu'après le printemps de Prague, elle ait été muselée. Enfin, elle est plus pu tourner jusque vers la fin des années 70. Voilà, c'est effectivement un film qui va, préfigurer ou au fond qui est symptomatique de son époque et de toute une série de films. Il y en a d'autres, j'ai cité Les Diamants de la Nuit ou Train étroitement surveillé. On peut évidemment penser aussi au premier film de Miloš Forman, Les Amours d'une blonde ou Au feu les pompiers, qui tous, alors, mais de manière assez différente, critique la société et réclame une ouverture et une fantaisie aussi qu'il y avait peu à l'époque. Ceci dit, Rytilova, si on regarde Un sac de puces qui accompagne le DVD dans la réédition de Malavida, là, qui existe depuis quelques années, et qui est un film de 1962 qui comporte la même vitalité de la jeunesse qui se rebelle, a un caractère beaucoup plus sociologique d'un cinéma social, très proche des ouvrières, du monde du travail, de l'usine. Voilà. Effectivement, les petites marguerites choisissent délibérément de ne pas, en tout cas, poser les questions sociales en termes de classe. On ne sait pas ce qu'elles font. Enfin, on sait qu'une travaille, l'autre pas. Mais en termes d'une part de genre et d'autre part d'âge, hein, parce qu'il y a quand même une vraie confrontation entre le féminin et le masculin, qu'est-ce que veut dire l'amour pour les femmes ou pour les hommes, et entre les jeunes et les vieux, c'est quand même bien, voilà. Mais plus ou pas, où il y a une façon de gommer la question du travail, et remarquez, c'est pas tout à fait vrai, enfin bon, c'est parce que il y a la dame pipi par exemple à qui elle vole, qui est l'acte de dépravation pour lequel elle s'auto-condamne d'ailleurs, et c'est le seul, voilà, mais donc qui laisse supposer un travail, voilà. Mais sinon quand même dans l'ensemble le film est assez loin de ces réalités là alors que Khitilova les a très précisément explorer dans ses autres films. Bon, je cite Un sac de puces parce qu'il est accessible là. Il y a un autre film réalisé, un autre long métrage réalisé en 1963 qui s'appelle Quelque chose d'autre. Il y a un article d'ailleurs dans les cahiers du cinéma avec des années 65-70 de Serge Danet qui parle de ce film, et ce film raconte en parallèle le quotidien d'une championne de gymnastique et d'une mère au foyer, et enfin d'une ménagère, et les deux femmes ont des problèmes existentiels par rapport à leur choix, l'une d'être championne de gymnastique, l'autre d'être dévouée à son mari et son enfant, et c'est ces questions-là que Khitilova travaille dans ces films-là. Dans Les Petites Marguerites, c'est vrai que le parti pris est différent, il va plus vers effectivement une expérimentation, une liberté formelle, un sens, une attention aussi à l'esthétique du film, à la forme cinématographique, quoi. Vraiment, c'est ça qui prime. Ah oui. Je voulais vous lire une citation qui termine le texte ici de Krumbachova raconte bien où elles en sont au moment où elles font le film. Krumbachova dit dans un entretien « Les dieux ont disparu, de même que les mythes et les illusions sur la bonté de l'homme. Pourtant, certaines personnes restent des enfants. » Ils sont incapables de faire preuve d'abstraction et confondent mythe et réalité. Voilà. Et Les Petites Marguerites, c'est bien un film qui vient questionner aussi les points de maturité. Elles ont beaucoup dit, Krumbachova et Khitilova, que ces deux maris étaient idiotes. C'est un peu étrange comme position, parce que je crois que la prise de décision dès le début du film d'être dépravé et ce questionnement aussi sur la réalité de leur existence, hein, que le film pose sans cesse, les place au-delà, je dirais, d'un jugement de valeur, de savoir si elles sont idiote ou intelligente. Pour entrer plus précisément dans la recherche formelle du film, je vous propose d'analyser deux extraits, le tout début du film et puis ensuite un qui est plus vers la milieu-fin. Donc on va regarder le premier extrait. Donc on voit dans... Alors bon, c'est toujours intéressant de partir de l'ouverture d'un film, parce que ça permet... Enfin, en général, les enjeux sont posés dès l'ouverture. Bon, évidemment, ça dépend des films, mais là, c'est très clair. Cette roue qui actionne un monde qui est détruit. Hein, on est vraiment en pleine guerre froide, en pleine escalade de l'armement nucléaire, avec en même temps des mouvements pour la paix d'un côté et de l'autre du rideau de fer, qui pose un constat avant même que le film commence, de dire voilà, on est dans ce monde-là, dans ce monde qui va peut-être inéluctablement vers une explosion nucléaire. Et à partir de là, le constat, avant même que les deux personnages le fassent, est donné aux spectateurs. Ces images d'archives viennent préfigurer tout le propos du film. Et le propos du film, c'est vraiment un film sur la destruction, en fait. Et l'autodestruction, d'ailleurs, de la jeunesse, hein, puisque ces deux jeunes filles posent ce constat. Et c'est vrai qu'on entendra dans le film que leur voix. Hein, l'environnement autour, on n'est pas bien sûr qu'il existe, on n'est pas et peut-être la seule le seul pendant, c'est la dame pipi qu'elle vole, qui chante ses chansons nostalgiques, hein, la vieillesse, ou en tout cas la femme d'âge mûr, la seule chose qu'elle est capable de faire, c'est d'avoir une position nostalgique, de regretter sa jeunesse. Alors que les jeunes filles, la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est s'autodétruire, puisque tout mène vers la destruction. Et c'est vrai que là, en le voyant avec vous en salle, la scène, et puis surtout cette dédicace finale où Riti Lova dit « Je dédie ce film à ceux qui ne sont capables que de s'indigner parce qu'on a piétiné une salade de leur jardin », ça fait très écho à, quand même à la question du chaos climatique et des solutions qui y sont apportées. Parce que c'est vrai que tout ce gaspillage de nourriture, toute cette ce festin l'a montré comme un excès de la consommation, qu'elle vienne gâcher, ça peut résonner dans la... J'imagine pour des élèves aujourd'hui qui ne... parce que là, évidemment, pour ceux qui ont connu la fin de cette scission entre l'Est et l'Ouest et du rideau de fer, ça résonne évidemment avec la façon dont seule une classe privilégiée de ces pays qui... Et le film a fait terriblement scandale en Tchécoslovaquie dès sa sortie, où il a très peu été apprécié du public tchécoslovaque, qui faisait la queue pendant des heures pour pouvoir acheter un morceau de viande, quoi. Donc, effectivement, ce gâchis de nourriture là a énormément choqué à l'époque. Et Riti Lova le fait, il va, j'avais écrit envers et contre tout, pour vraiment justement alerter les consciences aussi sur un état de fait de gaspillage et peut-être qui a lieu au moment où elle fait le film. Voilà, donc je vous avais mis... Alors, c'est vrai que voir le film en salle permet, encore une fois, une attention à un montage qui est souvent très rapide, qui utilise beaucoup des procédés d'image par image et presque d'image subliminale, comme par exemple le moment où cet immeuble s'effondre, hein, dans la séquence. Et au milieu d'une discussion, le plan dure quelques secondes et il est possible qu'il nous échappe, mais il me semble pas quand on est dans une salle de cinéma où l'attention est focalisée et où on peut tout à fait percevoir, en tout cas, ces plans de stock shot. C'est intéressant, ça aussi, d'aborder l'usage de l'image d'archives dans les films qui ont été tournés dans les pays soviétiques depuis le début des années 60, parce qu'il n'y a évidemment pas du tout la même politique de droit d'auteur quant aux images d'archives qu'il y a aux États-Unis ou dans les pays occidentaux. Et donc, il y a un recours et il y a une circulation des images d'archives dans les pays soviétiques qui est beaucoup plus grande et qui permet une créativité aux cinéastes qu'ils n'ont pas ailleurs. Bon, je cite deux exemples. Si vous regardez les films de Andrei Tarkovsky, hein, par exemple, dans Le Miroir, il y a une séquence d'archives où on voit l'armée traverser, enfin des soldats traverser un immense espace. Et ces archives, d'ailleurs, ne sont pas nécessairement contextualisées. Elles sont là aussi pour interroger à la fois la narration et la plasticité du film, où on entre comme ça dans un matériau qui n'est pas celui du film, mais qui vient enrichir le film. Et c'est très vrai aussi chez Artavas Pelechian, qui est un cinéaste arménien, mais qui a fait ses films en Géorgie, je pense, et qui, lui, n'utilise presque que des images d'archives. Et qui a fait des films qui comptent énormément dans l'histoire du cinéma mondial, d'ailleurs. Voilà. Et ça, on le retrouve dans Les Petites Marguerites, cet usage de l'image d'archives, bon, surtout au début et à la fin du film. Il y a donc un entremêlement dans le film ça c'est une partition, on pourrait au fond analyser un peu n'importe quel film, mais c'est quand même assez pratique, entre imaginaire, réel et symbolique, qui vient mais qui est particulièrement lisible, disons, dans Les Petites Marguerites, puisqu'on on traverse des espaces qui appartiennent aux trois régimes, aux trois topiques, et il faut en même temps faire assez attention avec le régime symbolique, parce que c'est vrai que dans cette première séquence, cette incursion le ce qu'on pourrait associer au jardin d'Éden, évidemment, il y a un pommier, elle croque la pomme. Alors, tout de suite, on peut partir sur une interprétation biblique. J'avais fait un cours sur les nouvelles vagues en histoire du cinéma pour des L3 l'année passée, et ils avaient analysé le film sous le sceau des sept péchés capitaux, comme si ces jeunes filles étaient là en train d'expérimenter ou de traverser les sept péchés capitaux. Oh, j'étais sidérée par cette analyse qui me semble très fausse, parce que Ritilova, si bien sûr elle fait des références, mais la religion et le poids du catholicisme dans la société tchécoslovaque en 1965 est quand même assez peu important. Et c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment plus à voir avec une critique de la nomenclatura plus que qu'une quelconque symbolique biblique. Il y a un élément qui est très important, c'est l'attention donnée aux détails du décor, particulièrement dans l'appartement qu'occupent les deux maris, et dont les murs sont tapissés d'un herbier. Il y a tout le temps des références au végétal, comme ça. Donc il y a effectivement dans ce passage entre réel et imaginaire, quelque chose du vecteur du végétal qui va vers le jardin et la possibilité d'un ailleurs, et le réel est plutôt attaché à la ville, aux espaces, et donc on le voit aussi dans cette première séquence. Elles sont dans cet appartement ou sous les draps, et ça, il y a aussi tout le temps des références au support de la pellicule qu'on coupe pour monter aussi. Hein. Il faut bien penser que, voilà, on ne la coupe pas avec des ciseaux, mais avec une colleuse, mais il y a tout le temps des références entre ce qu'est la matérialité du film et la symbolique choisie par Khitilova. Et donc, sous le drap blanc, un édredon fleuri qui vient faire écho à l'espace du jardin dans lequel elles vont se retrouver projetées. Et elles essayent, ces deux jeunes filles, d'agir sur ce réel, donc de prendre un noyau et de le jeter dans la rue de la ville qui est filmée plutôt en noir et blanc et qui, elle, serait réelle, pour essayer de faire éclore autre chose sans toutefois y parvenir, puisque elles sont un peu comme prisonnières de cette dépravation, en fait, prisonnières du constat qu'elles font du monde. Et d'ailleurs, ça fait une très bonne transition vers le deuxième extrait, où on va voir encore ce passage d'un espace à l'autre, de l'imaginaire au réel, et de ce principe narratif de marabout bout de ficelle, où elle passe sans cesse d'un champ à l'autre. Voilà, il me semblait que cette séquence posait aussi un des principes fondamentaux du film, qu'il ne faut pas chercher à expliquer une quelconque logique narrative de situations qui s'enchaîneraient, qui viendraient comme ça répondre à l'autre dans une logique qu'on pourrait expliquer. Hein, le film est vraiment beaucoup plus du côté du questionnement, d'abord, philosophique, existentiel, presque phénoménologique. Qu'est-ce que c'est de sentir, de manger? C'est très tourné vers la perception, les sens, mais aussi vers ce ton de l'absurde et du surréalisme. Il ne faut pas oublier que Kafka a écrit à Prague dans les années 20 et que Khitilova et Komrechova elles sont influencées par Kafka. Ça fait partie de leur culture, ça fait partie du lieu dans lequel elles vivent, dans lequel elles ont grandi. Et donc, on peut tout à fait, pas comparer, mais disons, mettre sur le même plan de réflexion et de transformation du monde, les petites marguerites et par exemple la métamorphose, enfin beaucoup de textes de Kafka en tout cas. Et c'est vrai qu'elle choisit aussi délibérément d'être dans un registre symbolique, c'est-à-dire le se questionner sur une barque au bord d'une rivière dans cette situation de possible passage d'entrée vers la mort, qui est en plus une figure au cinéma qui existe, je ne sais pas, depuis l'Aurore de Murnau jusqu'à tant d'autres films qui figurent symboliquement ce passage de la vie à la mort sur une barque, sur un fleuve. C'est évidemment, rien n'est laissé au hasard. Hein. Je pense que Khitilova a écrit très précisément ce film et que chaque situation, si elle ne suit pas un déroulé dans une logique narrative, est en tout cas un renvoi permanent, encore une fois, entre réel, imaginaire et symbolique, qui permet de mettre en scène en fait la révolte de ces jeunes filles qui ne sont pas, là cette séquence le montre bien, bien sûr d'exister. Hein. Et l'actrice qui joue la Marguerite Brune, alors je suis désolée, j'ai j'ai pas son nom là tout de suite, mais elle explique dans un entretien que la séquence où les ouvriers vont à l'usine en vélo a été tournée sans les prévenir, en fait. Elles se sont trouvées dans une rue de Prague un matin où les ouvriers allaient vraiment au travail, et que c'est le moment où elle a pris conscience de ce que le film racontait. Parce que Ritilova ne lui a pas fait lire de scénario, ne l'a pas l'a trouvé dans un casting sauvage. Enfin, elle n'avait pas spécialement envie, cette jeune fille, de faire ce film. Elle a été choisie comme ça et elle s'est lancée dans l'aventure sans jamais très bien comprendre, ce qui aussi explique ce jeu un peu mécanique et désincarné, mais c'est évidemment un choix de Ritilova, ce qui explique le fait de jamais très bien savoir où elles sont et ce qu'elles doivent faire, et ce moment-là qui la confronte à la réalité du monde extérieur duquel elles sont, je pense, pendant tous les autres tournages du film assez coupés, hein, puisque la plupart du film est évidemment tourné en studio. Voilà, cette séquence-là, le lui raconte. Je voulais aussi revenir sur l'esthétique vraiment des petites marguerites, qui est tout à fait à réfléchir et à qualifier dans le mouvement artistique principal des années 60, et qui est le pop art, hein, qui est né en Angleterre, mais qui a énormément essaimé aux États-Unis. Et on pense, quand on dit pop art, on pense d'abord à Andy Warhol à sa critique, et en même temps le fait de réfléchir la société de consommation à travers une œuvre d'art qui serait reproductible à travers les sérigraphies, mais qui est aussi, dans l'œuvre d'Andy Warhol, très influencée par la masse médiatique et les icônes médiatiques, disons, hein, que ce soit Marilyn Monroe ou Elvis Presley, ça travaille ce monde des stars. Et Ritilova se situe aussi dans cette esthétique du pop art, c'est-à-dire d'un monde très coloré, d'un travail sur les couleurs au cinéma qui est plus que volontaire, c'est-à-dire qui est presque artificiel. Elle va jusqu'à peindre les façades ou les portes. On peut imaginer que tout ça est fait et tout est réfléchi. Les changements de costume, évidemment, des deux comédiennes pendant tout le film sont toujours dans un accord de couleurs, et c'est ça qui va qui va vraiment orienter la mise en scène. Mais je tiens à rappeler juste que ça n'est pas nouveau et ça n'est pas propre au cinéma de Ritilova. Hein, si vous avez vu Le fleuve de Jean Renoir, qui est tourné en Inde, Jean Renoir a fait peindre le gazon en vert pour qu'il soit plus vert, voyez. Ou alors, si vous regardez les films de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort, il a repeint les façades de la ville pour que ça colle à l'esthétique de son film. Donc c'est aussi, enfin, cette attention aux couleurs est évidemment partagée, mais elle vient ici, dans une logique esthétique qui la place au centre, qui place le travail sur les couleurs au centre de la mise en scène. Et je dirais l'artiste pop auquel j'associerais plutôt les petites marguerites, et c'est particulièrement vrai évidemment dans cette séquence, ce serait plutôt Rauschenberg. Et le travail de Rauschenberg, c'est un travail sur le détritus, la récupération, le fait d'aller chercher dans les poubelles des éléments qui, agencées par l'artiste, deviennent œuvres, en fait. Et donc, c'est évidemment une réflexion sur la société de consommation et la société industrielle ou post-industrielle. Mais Riti Lova, dans la façon qu'elle a et d'ouvrir le film avec cette machine qu'on retrouve d'ailleurs dans cette séquence, hein, cette même roue, et qu'elle a de parer ces deux jeunes filles d'éléments récupérés, hein, et d'en faire des costumes, voyez, d'une grille, voilà, ou de morceaux de ferraille, elle serait plus proche de ces artistes. Bon, d'ailleurs, je cite Rauschenberg, il y en a plein d'autres. Hein, il y a un affichiste, quelqu'un qui Raymond Hens, qui travaille sur la superposition des couches d'affiches, etc. Mais il est certain que Riti Lova connaît, a vu, est en phase. Et ça, c'est aussi un peu extraordinaire parce qu'effectivement, elle est de l'autre côté du rideau de fer. Et donc, le film montre à quel point l'esthétique la plus nouvelle, parce qu'il y a aussi toujours une recherche dans l'art contemporain depuis les avant-gardes, en fait, une recherche de qui est à la pointe de la nouveauté, de ce qui va être considéré comme moderne. Là, Riti Lova fait bien la démonstration qu'elle est tout à fait au courant, disons, des courants artistiques les plus avancés à l'Ouest aussi. Hein. On peut aussi envisager les Petites Marguerites comme l'affirmation d'un art dans les pays soviétiques qui ne serait pas rivé au réalisme socialiste. Hein. Ça, c'est certain que le film participe et qu'il va justement vers ce souci esthétique et plastique pour justement se démarquer du réalisme socialiste et aussi de la veine d'où vient Riti Lova et à laquelle on peut rattacher aussi pas mal de cinéastes tchèques, qui est une veine plutôt de cinéma vérité, enfin de cinéma social, de cinéma. Voilà. Et en plus, voilà, elle insère au milieu de ces séquences où les jeunes filles se parent de déchets, des affiches publicitaires qui viennent comme en image subliminale. Alors, est-ce questionner ce qu'on voit, hein? Et ça pourrait être une manière de dénoncer ou de dénoncer la puissance de la publicité, des images, enfin, qu'ils ne connaissent pas comme on la connaît à l'Ouest, mais qui existe aussi dans le monde entier, quoi. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on passe à une discussion un peu? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez... Enfin, moi, je suis très intéressée de savoir comment vous avez perçu le film. J'imagine aussi que vous devez peut-être penser que c'est un film difficile à transmettre, que vous allez être peut-être, inquiet de la réaction des élèves. Moi, je crois qu'il faut leur faire confiance et penser qu'il y a aussi toujours... Le film est quand même très attaché à un portrait éclatant de cette jeunesse, quoi, et que ça, c'est quand même au centre, et que ces jeunes filles, elles existent aussi dans leur... Bon, une forme de stéréotypie de ce que serait le maniérisme adolescent, mais qui, je pense, peut tout à fait parler à des adolescentes aujourd'hui, hein, qui elle aussi, et de tout temps, je veux dire, parle par stéréotypie, se comporte en ricanant et tout ça. Donc, il y a, je crois, une identification possible des jeunes gens aujourd'hui à ce film. Enfin, je vous laisse la parole parce qu'en fait, j'en sais rien, je fais circuler un micro. Bien sûr, alors ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a évidemment tout un substrat, enfin, des références à l'avant-garde, et c'est vrai que ça peut permettre d'évoquer les avant-gardes des années 20, les petites marguerites. Je faisais référence pas que au surréalisme, mais il me semble que particulièrement la séquence de découpage où elles finissent par se découper des membres et où l'image pellicule, là encore, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais c'est une prouesse technique, hein, ce découpage de la pellicule, parce que on n'est pas autant des effets numériques où on fait ça en deux coups de manette, hein, c'est vraiment un artisanat très très poussé, de même que le film de McLaren, hein, d'ailleurs. Mais ça me semblait être une... En fait, moi, j'ai l'impression qu'on peut attraper les petites marguerites par où on veut, parce que les influences sont multiples. Moi, j'ai vu là, et à chaque fois que je le vois, je me dis, oh tiens, ça me fait penser à... Là, j'ai pensé à un film de Billy Wilder, Sabrina, où Audrey Hepburn tombe amoureuse d'un vieux qui est, aidez-moi, un grand acteur américain, je ne sais plus... Clark Gable ou je sais plus, et cette scène sur le bord des quais là, de train, ça peut tout à fait évoquer ça. Bref, le film, je pense, est très pensé, très conscient, et elles sont hyper cultivées, c'est bourré de références en fait. Donc ça, on a tous nos références, moi j'ai les miennes, vous avez les vôtres, chacun peut tout à fait attraper le film par là où... Mais c'est vrai que dans les formes, c'est-à-dire dans la... Parce qu'il y a quand même une attention très focalisée sur leur corps, sur leurs vêtements, sur leur mimique, sur... voilà. Et ça fait quand même très référence aux années 60, quoi. On est quand même très clairement dans la mode des années 60. Ça m'a même fait penser à La Noire de Sem Bene-Hausman, parce que la jeune africaine est habillée comme ça, avec ses chaussures hyper pointues, avec des petits talons qui sont très importants dans le film, et une robe à pois, vous voyez. Voilà. Ça évoque aussi le Godard de ces années-là, enfin précisément ces années-là, pour une question de mode, en fait. Mais après, je suis absolument d'accord avec vous, dans le travail de la forme et du fond, en fait, de cette espèce de nihilisme de No Future, c'est à la fois Dada et les punks qui vont arriver, ça, c'est certain. Ouais. Moi, ça m'intéresse aussi, vous pouvez spontanément dire aussi pourquoi ça ne vous a pas plu. C'est intéressant de qu'est-ce qui vous a arrêté, de questionner ensemble aussi... ce qui ne passe pas la barrière du temps dans ce film. Il y a beaucoup de gens qui restent hermétiques aux petites marguerites, et n'hésitez pas à le dire parce que c'est intéressant de le réfléchir, quoi. Alors après, c'est vrai que, comme vous dites, oser, ça a beaucoup choqué. Hein, et c'est vrai qu'on peut se dire, et peut-être qu'on vit dans une époque où un film comme ça serait... aussi pas forcément très bien reçue, parce que on pourrait dire elle dessert sa cause, parce que d'un côté, comme vous dites, c'est un hymne à la liberté, à aussi l'émancipation féminine, au fait de se moquer aussi des vieux riches là qui profitent des jeunes, et de ce rapport de domination masculine aussi qui est quand même pointé, nommé et complètement tourné en dérision. Ah oui, ça m'a aussi évoqué, là, un film russe de ces années-là, qui a eu la Palme d'Or à Cannes, et qui est « Quand passent les cigognes » de Kalatzatov. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une séquence où un garçon joue du piano pour une fille, et en fait, c'est une quasi-séquence de viol, quoi, hein, au milieu des bombardements et tout ça. Et là, c'est cet amoureux éperdu, et la manière dont la poésie masculine à l'endroit de la féminité est tournée en dérision. Enfin, c'est vraiment très très subversif. Hein. C'est vrai que c'est un film attrape toute occasion pour dénoncer, enfin pour énoncer aussi à quel point ces jeunes filles sont émancipées. Mais comme en même temps elles sont immorales et qu'elles vont au bout d'une espèce de destruction qui met à mal des valeurs que tout un chacun peut partager, comme de voler leurs copines ou de gâcher de la nourriture, etc. On peut aussi, enfin, je pense qu'il faut présenter le film en disant, voilà, il y a une volonté d'aller de célébrer l'émancipation et de, mais en même temps, il y a aussi l'évocation, disons, d'un danger, mais y compris peut-être moral, enfin, ou en tout cas l'idée que dans ce monde sans espoir, la seule voie possible, c'est d'aller au bout d'une émancipation qui nierait les valeurs. Enfin, c'est complexe en tout cas. C'est vrai que c'est pas et c'est ça qui en fait une œuvre d'art aussi. Hein, c'est que c'est pas un film qui dit elles sont gentilles, elles sont méchantes, elles sont intelligentes, elles sont bêtes. Le monde est blanc, le monde est noir. Non, les choses sont désespérées, ça on peut le dire, absurdes. Il est très difficile de trouver du sens, de savoir, d'avoir des certitudes. Hein, c'est un film sur l'incertitude, le questionnement jusqu'au bout de nos propres existences. Mais tout ça va avec aussi quelque chose qui mène à la destruction, quoi. Mais cette destruction, elle est posée comme appartenant à ce qui nous entoure. C'est-à-dire, elle n'est pas... c'est pas aux petites marguerites qu'elle appartient, cette destruction. Elle appartient à ce qu'elles ont autour d'elles, quoi. Enfin, bref. Mais là-dessus, je pense que c'est un film vraiment intéressant pour aussi... à partir du cinéma, parce que c'est un film de cinéma qui appartient à l'histoire du cinéma, des nouvelles vagues, encore une fois, mais qui a une référentialité, une approche plastique qui permet de questionner et de poser plein de jalons dans l'art contemporain. Et ça, pour ça, le film est extrêmement riche, quoi. Et vous avez tout à fait raison, on peut aussi... par rapport à cette séquence, effectivement, faire référence aux incursions, d'ailleurs surréalistes, dadaïstes, hein, ils se sont battus dans des spectacles comme ça, justement, où voilà, Tristan Tzara est venu dénoncer et Robert Desnos lui a cassé la figure pour après. Voilà, et c'est vrai qu'on peut évoquer toutes ces champs de l'art contemporain et questionner, parce que aussi, c'est à quoi ça mène et à quelle réception de l'œuvre et à quelle forme, voilà, et pourquoi est-ce qu'on va vers une plus grande abstraction. C'est pour ça que je vous citais, je trouvais vraiment la citation, je vous la relis, de Ritilova, parce que les dieux ont disparu, de même que les mythes, les illusions sur la bonté de l'homme, et pourtant certaines personnes restent des enfants, ils sont incapables de faire preuve d'abstraction et confondent mythes et réalité. Et finalement, Les Petites Marguerites est un film qui nous aide à faire preuve d'abstraction et peut-être à... Enfin, mythes et réalité, je ne sais pas, mais en tout cas à naviguer entre imaginaire, symbolique et réel. Et ça, voilà, ça permet de les nommer et de les explorer. Bon, là, je l'ai fait un peu rapidement, mais c'est vrai qu'il faudrait plus de temps, séquence par séquence, d'analyser ça avec les élèves. Bon, parfois, c'est complexe aussi, ça se mélange. Par exemple, j'avais commencé une interprétation autour de la question du végétal qui les emmène toujours vers l'imaginaire. Elles arrivent, donc elles roulent sur cette pente herbeuse. Elles arrivent dans un espace de campagne qui semble un peu idyllique, ce jardinier de bon matin qui arrose. Elles ont envie d'être vues par lui. Elles cueillent directement des maïs, des carottes et tout ça. Et puis, elles arrivent dans cette rue où il y a ces ouvriers qui vont à l'usine et qui ne les reconnaissent pas. Et là, clac, je faisais la... Bon, une séparation qui ne doit pas être trop rigide, mais effectivement, entre l'urbanité et la ruralité, entre le végétal et le minéral qui appartiendrait au champ du réel ou de leur imaginaire, et qu'on peut lire dans cette séquence-là. Ouais. Et le film de McLaren, qu'est-ce que vous en avez Est-ce que vous connaissiez Non. Et vous vous rendez compte, 1955, hein, c'est vraiment ancien. Parce que effectivement, c'est ancien. Et d'ailleurs, l'expérimentation du cinéma, enfin, sur les images, la pellicule, etc., date du temps du muet. Hein, un des plus grands, alors on dit toujours Méliès, mais surtout Abel Gance, a fait toutes sortes d'expérimentations hyper complexes avec la pellicule. Et je dirais que c'est le cinéma parlant qui va, Chaplin en est un bon exemple d'ailleurs, qui va un peu arrêter les expérimentations formelles de l'image cinématographique qui reviendront de plus belle dans ces années 60, enfin après la guerre, et notamment à travers le cinéma d'animation. De réflexion sur McLaren. Ah oui, si une chose qui me vient là, un point commun entre McLaren et Ritilova, qu'il est bon d'évoquer aujourd'hui, parce qu'à mon avis ça devient de pire en pire, c'est la question de l'utilisation de la musique, qui est une musique symphonique, hein, une musique exercée à plusieurs instruments, une musique orchestrale en tout cas, et qui vient accompagner, rythmer l'action. Et chez Ritilova, il y a une recherche musicale. C'est terrible, j'ai pas de musique, mais en plus prononcer le tchèque Slirt et Jiří Soust, bon, deux compositeurs qui viennent travailler sur ce film et qui ne sont pas, alors ça c'est intéressant, aussi à la pointe de la modernité. Il ne s'agit pas là d'utiliser les Rolling Stones ou... qui commence à peine, mais voilà, de la modernité de 1965, peut-être y avait-il sûrement des groupes d'avant-garde en Tchécoslovaquie, mais plus d'explorer une musique, encore une fois, orchestrale, avec des références anciennes. Hein, le début, c'est une musique renaissance, un peu. Le passage sur les objets de récupération, c'est vraiment du clavecin, donc une référence à des musiques anciennes, mais qui sont utilisées dans un rapport rythmique avec l'image. Ce que permet rarement la musique au cinéma, qui vient en général appuyer les émotions. Hein. Là, on est vraiment, et c'est intéressant d'analyser l'usage musical de Ritilova, parce qu'il ne... il ne s'agit pas dans le film tellement de provoquer des émotions par la narration, en tout cas, d'accompagner une mise en scène qui joue essentiellement sur le rythme. Plutôt accéléré, d'ailleurs, c'est pas un rythme qui va vers la lenteur. Et l'expérimentation de McLaren. Et c'est là aussi où je dirais que ce sont des films qui travaillent la perception. Le film de McLaren, c'est comment le dessin, dans cet espace indéfini, qui n'est plus celui du photogramme, qui n'est pas celui du défilement du 24 images secondes, comment le son vient accompagner le signe. Je parlerai plutôt de dessin ou de signe à l'attention du film de McLaren. Mais au fond, Ritilova, il y a aussi un peu cette idée-là que la musique vient rythmer l'action et composer en fonction d'une composition rythmique. Après, pour revenir sur votre souci de la contextualisation politique du film, c'est vrai que ça peut soit donner cours d'histoire géo sur le bloc soviétique, la Tchécoslovaquie en 1960, c'est complexe, il faudrait que ce soit un peu dans le programme, j'en sais rien, c'est aussi effectivement ça concerne pas forcément les élèves que vous emmènerez voir ce film, et puis vous aurez pas forcément le temps aussi de rentrer dans cette complexité historique, mais après je crois que le film par sa forme aussi peut à la limite se passer de cette contextualisation et vous pouvez appuyer davantage sur les problèmes philosophiques qu'il pose, l'expérimentation plastique, sans forcément, enfin aussi et en questionnant. Et je me dis, alors après il y a un caractère irrévérencieux et choquant du film, bon ça c'est à chacun de voir jusqu'où ça vous choque ou ça pourrait choquer les élèves aussi évidemment, et c'est possible, enfin, mais de la même manière Zazie dans le métro, je veux dire, s'il y a des gens qui sont choqués parce que c'est trop grossier, hein, le langage de Kono, on peut pas faire entendre ça aux élèves, enfin voilà, parce que c'est très grossier effectivement, et que il n'y a pas d'économie de ce côté-là. Et c'est vrai que les petites Marguerites va comme ça vers des endroits qui choquent, et en même temps on peut aussi tempérer ça par rapport à la violence des films d'horreur vidéo ou je sais pas quoi que les élèves regardent, ou des jeux vidéo toute la journée, quoi, enfin voilà, c'est enfin bon, juste pour disons le j'entends bien une espèce de difficulté justement à expliciter ce caractère choquant du film et aussi cette interrogation sur c'est très décousu, c'est très absurde, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir attraper. Mais j'ai envie de dire justement, faites leur confiance, et il faut montrer aux jeunes générations des œuvres qui sortent un peu du carcan narratif, parce qu'avec les séries là en ce moment c'est quand même l'enfer, on est complètement rivé à ça, l'attention n'est plus que sur le canevas narratif, et au fond l'art
Moi ce qui me semble important c'est de les préparer. Autant il y a quelques films où peut-être vous pouvez faire le pari, je sais qu'il y a certains enseignants qui veulent absolument pas dévoiler, etc. Mais sur ce genre de proposition là, l'important c'est de les préparer un peu en amont, et je pense qu'avec les documents pédagogiques en effet vous avez un petit peu de matière quand même pour amorcer ça et faire qu'il n'y ait pas un rejet du film, parce qu'en fait c'est le risque aussi.
Oui, moi j'ai un souvenir d'un film de Bresson. C'est sûr, quand on emmène les élèves voir un film de Bresson, il faut les préparer, parce que sinon il y a un rejet. Mais c'est aussi ce que je disais, heureusement qu'il y a... Alors, pour ça, le film de McLaren est génial pour ça. Là, ils ne peuvent pas décrocher, ça dure 5 minutes quand même. Hein. Et l'expérience de la perception, de la résistance rétinienne que propose le film, déjà, vous pouvez partir là-dessus, parce que ça, ils ne l'ont pas eu, ni devant une série, ni devant un YouTube, ni devant quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que la séance est très bien pensée, parce qu'on peut, comme ça, l'attraper sur peut-être avant la réalité virtuelle, il y avait la persistance rétinienne. Voilà. Et ensuite aller vers les petites Marguerites. Mais c'est vrai qu'il faut présenter ce type de séance en disant le cinéma et une industrie, et c'est aussi un art, quoi, hein, parce que bon, peut-être que les jeunes aujourd'hui considèrent le cinéma avant tout comme un espèce de distraction et absolument pas comme un art. Et là, on est effectivement face à ce que disait Godard, face à des formes qui pensent. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est déroutant, hein, je le conçois bien. Mais en même temps, cette aventure, d'abord, ces personnages jeunes, ça peut voilà, tout à fait leur parler, et aussi ces incursions vers l'imaginaire, c'est aussi en lien avec quelque chose de l'enfance qu'on retrouve dans ce film, hein, ces passages incessants d'un espace réel à un espace imaginaire, etc. Et aussi le caractère ludique du film, le fait que ces filles sont là dans cette aventure comme dans un jeu. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais on peut aussi attraper le film comme ça. Ça peut pas, enfin, ça résonne avec quelque chose qui est encore proche dans l'esprit des élèves, je pense. C'est presque comme un jeu vidéo, je ne sais pas. On pourrait le comparer, hein, où on passe d'un monde à un autre, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est très important de effectivement, en tout cas de quitter un peu ce champ du narratif dans la logique d'une histoire qui se déroule ou d'une approche aussi thématique du cinéma. Alors on va questionner. Je sais pas quoi, le rapport entre enfants et adultes, voilà. Non, là, effectivement, il s'agit pas de ça, mais il s'agit, à mon avis, de choses qui sont plus proches des élèves, presque, parce que ce questionnement existentiel de savoir est-ce que j'existe vraiment, aussi par rapport à la question de la virtualité aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ma présence au monde, hein, que le film... traverse sans cesse, c'est une question que probablement la génération actuelle se pose beaucoup plus que des générations qui n'ont pas vécu avec les réseaux sociaux, etc., nous ne la sommes posée, parce que eux, ils ont de multiples existences, et le film vient vraiment incarner ça. Et je trouve aussi de manière très sensuelle, très charnelle, elles sont très présentes, hein, ces deux comédiennes. On a beau ne rien savoir d'elles, leur présence corporelle dans le cadre, dans le champ, permet de s'identifier en tout cas. Et justement sans passer par une connaissance qui passerait par la narration, quoi, de savoir... des éléments biographiques ou j'en sais rien. Mais c'est très intéressant, ça, justement, d'aborder avec eux cette question de est-ce que voir un film, c'est comprendre une histoire ? Non, en fait. J'ai envie de dire... Et vous pensez que Gondry sera mieux reçu et perçu par les élèves que Ritilova ? Que ça pourrait être une porte d'entrée ? Intéressant, c'est vrai, faire résonner le travail de Ritilova avec des œuvres actuelles, c'est vraiment une porte d'entrée, oui, tout à fait. Et effectivement, pourquoi pas Gondry qui doit... Il y a une interview avec Philippe Catherine, voilà, qui est quelqu'un qui... je ne sais pas si Philippe Catherine est très populaire chez les adolescents aujourd'hui, mais lui, il se réclame beaucoup de ce film dans son esthétique et le caractère absurde et burlesque. On peut évidemment aussi leur montrer un Chaplin, un Keaton, aller... Encore une fois, c'est un film où les référentialités sont multiples et on peut les attraper, où on peut l'introduire aux élèves justement par une référentialité qui sera la vôtre et qui permettra de creuser... telle ou telle approche du film. Parce que, après, c'est vrai que c'est un film complexe et dans sa forme et dans son fond, en fait. Ouais. Si on s'attachait à l'expliquer, ce que je n'ai pas énormément fait, mais techniquement, comment il est vraiment fabriqué, c'est très complexe, quoi. Mais bon, là, c'est vrai que ça ne concerne plus... C'est l'usage de la pellicule argentique, bon, qui est un peu loin de nous aujourd'hui.